Une semaine d'actualité. Chantal Leroux.
Bonjour, ravie de vous retrouver pour revivre les moments forts de la semaine à travers les reportages de la rédaction et des correspondants de RFI dans le monde. Nous irons de Kaboul à Rome en passant par New York. Et pour commenter l'actualité, notre invité est en duplex de Strasbourg. Olivier Guez, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historien, journaliste, écrivain et vous venez de diriger et de préfacer Le siècle des dictateurs qui paraît chez Perrin Le Point. 22 portraits de dictateurs, de Lénine à Mao, de Mobutu au Duvalier, de Castro à Khomeini en passant par Pinochet et les trois Kim. Est-ce que le XXe siècle est vraiment le siècle qui a connu le plus de dictateurs ?
Alors des dictateurs et des dictatures, l'histoire en a toujours compté beaucoup. Mais c'est vrai qu'au XXe siècle, la période a été assez propice aux dictateurs. Simplement parce que pendant très longtemps, la plupart des grandes régions du monde étaient régies par des vieux royaumes, de grands empires, de vieux empires. Et ces empires, ces royaumes ont tous explosé au XXe siècle. Et du chaos né de ces explosions, eh bien très souvent apparaissent des hommes forts qui apportent ou qui en tout cas prétendent avoir des solutions simples à des situations extrêmement compliquées, ce qui a donné naissance à toutes sortes de dictatures, d'abord en Europe et puis après la Seconde Guerre mondiale vraiment à l'échelle de la planète, en Asie, en Afrique, en Amérique du Sud. Donc on peut dire que le XXe siècle est le grand siècle des dictateurs.
Alors dictateur, tyran, autocrate, est-ce que tous ces mots correspondent au même profil ? Quelle est votre définition du mot dictateur ?
Ma définition du mot dictateur, en fait, disons que ce qui caractérise le dictateur, évidemment, c'est un monopole des pouvoirs exécutifs, législatifs, judiciaires. C'est aussi la volonté, finalement, de suivre ses instincts, ses impulsions. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, une fois qu'on a éliminé les opposants, les détracteurs, qu'on a muselé les médias, eh bien, finalement, on peut faire ce qu'on veut. Et donc, on voit au XXe siècle des choses tout à fait invraisemblables, parce que aussi, ce qui caractérise le dictateur au XXe siècle, eh bien, c'est la mainmise sur un appareil de production, sur un appareil guerrier, sur un appareil médiatique inédit dans les annales de l'histoire, et donc des moyens gigantesques pour ces hommes, qui sont tous des hommes, au XXe siècle en tout cas.
D'ailleurs, vous rappelez que dans les origines du totalitarisme, Hannah Arendt distingue les tyrans autoritaires des dictateurs totalitaires.
Alors oui, là c'est l'échelon le plus élevé, et c'est quelque chose qui n'existait pas dans l'histoire. Les dictateurs totalitaires. Hannah Arendt a une définition très intéressante concernant le totalitaire. C'est le dictateur en fait qui peut faire ce qu'il veut de sa population, qui peut la massacrer. Et là on parle de massacre à l'échelle de millions, de dizaines de millions d'hommes, comme dans la Russie de Staline, dans la Chine de Mao, dans l'Allemagne hitlérienne après la guerre, le début de la guerre à l'Est. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils peuvent massacrer autant qu'ils veulent sans déstabiliser la population, sans déstabiliser le régime. Lorsque vous êtes un simple dictateur, entre guillemets, d'un pays qui compte 10-15 millions d'habitants, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec votre population. Très rapidement, on va sentir le manque. Dans la Chine de Mao, dans l'URSS de Staline, on peut massacrer des dizaines de millions de personnes et le régime se poursuit. Et je trouve la définition d'Hannah Arendt extrêmement intéressante.
Et vous dites que l'arme fatale des dictateurs totalitaires, ce sont les camps.
Oui, bien sûr. Alors là, c'est le summum du summum de l'horreur des totalitaires. Effectivement, ce sont les camps de concentration chinois sous Mao, c'est évidemment le goulag sous Staline, et ce sont évidemment les camps de concentration et les camps d'extermination d'Auschwitz, tout l'appareil concentrationnaire des nazis à partir de l'invasion à l'est des troupes allemandes.
Alors ce livre rassemble 22 portraits de dictateurs. Sur quels critères avez-vous fait cette sélection ? Parce que vous venez de le dire, il y a des degrés dans la barbarie. Lénine et Pétain, ce n'est pas la même échelle. D'ailleurs, vous écrivez parce que les dictateurs vous font penser à des requins, que Franco et Honecker n'ont jamais nagé dans le même bassin que Hitler, Mao, Pol Pot et Staline.
Tout à fait, qui sont des grands mangeurs d'hommes, ce qu'on vient d'expliquer, les totalitaires. On a choisi, bon, il y en a certains évidemment qui s'imposaient, Mussolini, Hitler, Lénine, Staline, Mao, etc. Ils étaient attendus, donc ça c'est sans surprise. On a fait un panaché, d'une certaine manière, à la fois les deux périodes, à savoir donc après la Première Guerre mondiale, l'entre-deux-guerres, on va dire, pour aller plus rapidement, et puis après 45, comment finalement ce système dictatorial va essaimer sur sur tous les continents. Et donc on a des rouges donc apparentés au communisme, on a des noirs, tout ce qui est fascisme, nazisme, et puis on a un vert qui est l'imam Khomeini à partir de la révolution islamique en Iran. Et c'est intéressant la révolution islamique en Iran et la dictature qui va suivre, parce que elle est hors cadre. Moi, ce que j'explique dans ma préface, c'est qu'après la Seconde Guerre mondiale et après l'explosion, la disparition des grands empires coloniaux, en gros, après le chaos qui suit ces décolonisations, donc vous avez des dictatures qui apparaissent, des dictateurs qui émergent, et eux à la fois mettent la main sur l'indépendance de ces nouveaux pays et vont s'apparenter, vont suivre une des deux superpuissances de l'époque, puisqu'on a l'époque de la guerre froide, soit les États-Unis, soit l'Union soviétique. L'Iran de Khomeini n'appartient ni au camp soviétique, ni au camp américain. Et quelque part, il annonce le 21e siècle, avec l'émergence de l'islam politique comme un des grands pôles du monde.
Alors, ce qui est frappant quand on lit ces portraits, c'est que dans la plupart des cas, vu l'enfance de ces hommes, vu leur départ dans la vie, personne n'aurait pu imaginer leur trajectoire.
Absolument. Ce sont, ils viennent de milieux assez plus ou moins défavorisés, petits bourgeois. Ils font des carrières tout à fait médiocres. Certains sont de véritables ratés. On pense évidemment à Hitler. Certains sont des bandits comme Staline. Et puis à un moment, l'histoire va les appeler. C'est-à-dire que l'histoire se met en marche. Le chaos s'installe. Guerre civile, chômage, inflation, guerre mondiale. Et par un espèce de coup du sort, ces gens qui a priori n'avaient aucun destin, eh bien vont se retrouver aux avant-postes de l'histoire. Et après, ce sont des malins, ce sont des manœuvriers, ils savent jouer sur les hommes. Ils vont se retrouver au pouvoir d'une manière quelquefois accidentelle. D'autres vont être élus, ou en tout cas partiellement élus, comme Hitler, hein, qui n'a pas la majorité absolue en 1933, mais qui va l'obtenir à sa façon très rapidement, et d'autres vont faire des coups d'État. Mais effectivement, le point commun de tous ces hommes au départ, c'est une enfance généralement assez malheureuse, et c'est la médiocrité de leur départ dans la vie.
Est-ce qu'on peut dire aussi que leur point commun, c'est la soif de revanche? Lénine, c'est l'assassinat de son frère aîné vénéré. Kadhafi est un fils de berger bédouin né dans un campement nomade. Bachar el-Assad, c'est peut-être le fait de ne pas avoir été le fils préféré de son père Hafez, qui avait choisi son aîné Bassel pour lui succéder.
Oui, il y a une revanche à prendre. Donc ce sont de jeunes ambitieux, ça c'est clair, hein, tous. Franco, qui lui vient plutôt de la classe moyenne, mais qui a eu des rapports très compliqués avec son père, qui était un homme volage, et qui, Franco, lui, va s'accrocher à une espèce de catholicisme ultra. Donc il y a toujours ce rapport au père. Donc soit c'est la revanche par rapport au père, soit c'est la revanche par rapport à la condition sociale d'où on sort. Et puis lorsqu'on arrive au pouvoir, après c'est même plus une revanche classique qui peut animer beaucoup d'entre nous. C'est une revanche sur la terre entière. Kadhafi vis-à-vis des États-Unis, c'est presque délirant. Saddam Hussein aussi, c'est pareil. Tous, hein, que ce soit Hitler, que ce soit Lénine, que ce soit Staline, Mao, etc. Là, il y a plus de limite. On est dans l'hubris absolue. Et donc, on veut prendre une revanche, mais alors sur l'histoire. L'histoire est très importante. Hein. Il y a toujours cette comparaison, ce travail de l'histoire. Et sur la planète entière, sur les superpuissances, sur les grandes puissances, c'est un autre point commun, on va dire, chez tous ces hommes.
Sept jours dans le monde.
Olivier Guez, on reviendra tout à l'heure sur ce livre, Le siècle des dictateurs. Je vous propose maintenant de dérouler le fil de la semaine écoulée avec d'abord l'horreur samedi dernier en Afghanistan. Un attentat suicide commis en plein mariage par un kamikaze du groupe État islamique a fait 80 morts et près de 200 blessés. À Kaboul, le récit de Sonia Ghezali.
Il était plus de 22h30 quand une énorme explosion a retenti dans l'ouest de Kaboul, dans un quartier où vit en majorité la communauté Hazara, la minorité chiite du pays. On a appris assez rapidement que l'explosion avait eu lieu dans le salon de mariage Shahr Dubai en pleine cérémonie. Des centaines de personnes étaient rassemblées, la fête battait son plein et le dîner était en train d'être servi. Les premiers témoignages rapportent que l'explosion s'est produite dans la partie réservée aux hommes. Les premières vidéos et photos partagées sur les réseaux sociaux par des témoins sur place montrent de véritables scènes d'horreur, des tables, des poutres, des chaises renversées dans des flaques de sang, de nombreux corps sans vie étendus au sol, des personnes, les vêtements tachés de sang, l'air hagard ou paniqué dans la rue, suspendus à leur téléphone, tentant désespérément de joindre leurs proches qui se trouvaient toujours à l'intérieur. Les talibans nient toute implication. Il faut garder en tête que la minorité hazara est régulièrement prise pour cible par la branche afghane du groupe État islamique. Cette attaque intervient alors que des négociations de paix entre talibans et américains semblent être proches d'un accord. Selon certaines sources gouvernementales, l'annonce de la signature pourrait intervenir dans les tout prochains jours.
Et justement, l'attentat contre ce mariage hazara a été revendiqué par la branche afghane de l'EI qui affirme avoir visé, je cite, un grand regroupement d'apostats. Olivier Guez, est-ce que Abou Bakr al-Baghdadi, le calife de Daesh, pourrait figurer dans les dictateurs du 21e siècle?
Bien sûr, il n'est pas resté très longtemps au pouvoir, mais on ne sait pas où il est aujourd'hui. Et je le mentionne à la fin de ma préface, puisque j'ouvre sur le 21e siècle. Et l'État islamique qu'il a instauré pendant quelques années était littéralement un État totalitaire, bien évidemment.
Alors en Inde, on en sait un peu plus sur la répression qui s'abat sur le Cachemire depuis l'abolition de son statut d'autonomie par le Premier ministre indien Narendra Modi. Selon des sources gouvernementales, plus de 4000 politiciens, universitaires et militants des droits de l'homme ont été arrêtés depuis 2 semaines. À New Delhi pour RFI, Sébastien Farcy.
Depuis le 5 août dernier, le débat démocratique est mort au Cachemire indien. Ce jour-là, New Delhi annonce en effet l'abrogation unilatérale de l'autonomie de la région sans consulter sa population. Dans les jours qui suivent, tous les politiciens locaux qui n'appartiennent pas au parti nationaliste hindou au pouvoir à New Delhi sont arrêtés par l'armée sous prétexte qu'ils se seraient prononcés contre cette abrogation et représenteraient ainsi un risque pour l'ordre public. Parmi les détenus figurent les 3 anciens chefs du gouvernement régional. New Delhi a reconnu l'arrestation d'une centaine de personnes, une rafle bien plus large en fait, qui aurait touché plus de 4000 personnes. Des universitaires, militants de droits de l'homme ou avocats, toute voix influente en fait, qui pourrait contester cette décision radicale. Comme toutes les communications sont coupées depuis 2 semaines au Cachemire, il est quasiment impossible de savoir qui a ainsi disparu. Les prisons du Cachemire déborderaient et les détenus seraient donc envoyés par avion en dehors de la région. Ces arrestations arbitraires sont réalisées en suivant la loi du Cachemire sur la sécurité publique qui permet de détenir une personne pendant 2 ans sans accusation formelle ni procès.
Une double actualité mardi en Italie avec d'abord la démission du président du Conseil. Giuseppe Conte a officialisé le divorce entre la Ligue et le mouvement 5 étoiles. Un divorce demandé par Matteo Salvini après seulement 14 mois de cohabitation. Rome, Anne Lenir.
Le président du Conseil, jusqu'à présent plutôt réservé et qui jouait surtout un rôle de médiateur, a surpris tout le Sénat en prononçant un réquisitoire très dur contre Matteo Salvini.
Permettez-moi de dire que le ministre de l'Intérieur a uniquement poursuivi ses propres intérêts et ceux de son parti, ce qui l'a conduit à la recherche constante de prétextes pour provoquer une crise de gouvernement et un retour aux urnes.
Matteo Salvini, que l'on a vu passablement irrité, a réagit en ces termes.
Président, je regrette de savoir que vous m'avez supporté ainsi pendant 1 an. Alors je serai donc dangereux, irresponsable, opportuniste. Mais moi je pense qu'en démocratie, la voie royale consiste à demander l'avis des citoyens italiens.
Désormais, la balle est dans le camp du président de la République, Sergio Mattarella, à qui il appartiendra de déterminer s'il est possible de former une autre majorité parlementaire ou si, faute d'accord solide, il convient de convoquer des élections anticipées. Il entamera ses consultations ce mercredi et devrait les achever jeudi soir.
Et le suspense continue. Le président Sergio Mattarella a donné finalement jusqu'à mardi aux formations politiques pour s'entendre sur une nouvelle majorité. Olivier Guez, vous suivez de près l'actualité italienne. Est-ce que le coup d'éclat du chef de la Ligue, Matteo Salvini, faire imploser la coalition qu'il formait avec le mouvement 5 étoiles, vous a étonné?
Non, pas du tout. Salvini, moi je suis souvent en Italie, notamment pour mes livres. Donc je suis l'actualité italienne, ça m'intéresse beaucoup. Le personnage de Salvini est très intéressant, c'est presque un personnage romanesque. Sa dernière sortie estivale sur la plage de Milano Marittima en train de boire des cocktails était assez fascinante sur l'évolution de nos démocraties. On dit souvent que l'Italie est un laboratoire politique pour l'Europe et même pour le reste du monde. Donc c'est pas du tout étonnant. Salvini se sait populaire. Je me souviens, j'étais là-bas l'été dernier lorsque le pont à Gênes s'est effondré et lorsque les responsables politiques de l'ancien gouvernement sont allés à Gênes, ils ont été littéralement hués. Lorsque Salvini est allé sur place, il a été applaudi comme jamais. Donc il a une assise populaire, son parti, la Ligue, a fait un très bon score aux élections européennes au mois de mai et donc là il se dit c'est maintenant, si je veux passer, si je veux être tout seul et cesser de faire cette alliance un peu biscornue avec le mouvement 5 étoiles, c'est maintenant. Donc ça n'a absolument rien d'étonnant, d'autant que c'est un populiste vraiment au sens propre du terme, c'est-à-dire dans l'extrait que vous avez passé, il dit systématiquement il faut avoir recours aux élections, il faut ce contact à la population, aux citoyens. Et donc tout ça s'inscrit dans une évolution qui est tout à fait logique. Mais c'est très intéressant ce qui se passe en Italie. J'étais là-bas encore la semaine dernière et on voit vraiment les médias qui sont libres encore, hein, bien évidemment, on est très très loin d'une dictature, puisqu'on parle de dictateur aujourd'hui, se mobilise, il y a toute une classe moyenne qui ne veut pas de Salvini, donc c'est un moment qui va être très important cet automne vis-à-vis de la question Salvini.
On reste en Italie, Olivier Guez, avec la fin du calvaire mardi soir pour les 83 migrants de l'Open Arms bloqués en Méditerranée depuis 3 semaines. Ils ont pu débarquer sur l'île de Lampedusa sur décision de la justice italienne qui a désavoué les ordres justement de l'ex-ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini. Le reportage à Lampedusa de Juliette Garbrand.
Ils sont une 60aine, membres du comité Lampedusa Solidarité, mais aussi touristes, habitants, à être venus souhaiter la bienvenue à l'Open Arms et ses passagers, émus quand le navire entre dans le port. Lillo Maciore, fonctionnaire à Lampedusa, a suivi de près l'évolution de ces derniers jours.
Tout le temps, je les ai suivis de très très près, par les pensées et par le cœur. J'étais toujours avec ceux qui étaient à bord de l'Open Arms. Enfin, ce cauchemar de l'attente en mer est terminé.
À bord du navire, on aperçoit les visages des migrants, parfois souriants, souvent fermés, inquiets. Paola Pizzicori, 52 ans, est venue pour leur donner une autre image de son pays.
Je pense que c'est important de manifester notre solidarité, de leur dire qu'on est de leur côté et surtout pas du côté de ceux qui ont voulu qu'ils passent 19 jours en mer, dans des conditions inacceptables.
Mais la joie du dénouement a un arrière-goût amer.
L'entrée du navire dans le port ce soir, on peut considérer que c'est une victoire. Mais en même temps, je retiendrai que ces 19 jours en mer, c'est une grande défaite. 19 jours passés en mer, dans ces conditions. Otage de quoi? De l'égoïsme, de la soif de pouvoir d'un certain homme politique qui n'a aucune idée de ce qu'est la valeur de la vie humaine, quelle qu'elle soit.
Quelques partisans de Matteo Salvini étaient là pour dénoncer les ONG complices des passeurs, selon la rhétorique de la Ligue. Petit à petit, les migrants ont été emmenés vers le hotspot de l'île. Petit à petit, les gens sont rentrés chez eux. Jusqu'à la prochaine fois.
Jusqu'à la prochaine fois, disait notre envoyé spécial à Lampedusa, Juliette Garbrand. Jusqu'à quand, Olivier Guez, les Européens vont-ils continuer à se défausser les uns sur les autres de l'accueil des migrants ?
Longtemps, je pense, malheureusement. Je pense que l'une des raisons qui ont fait le succès de Salvini, c'est cette question des migrants. C'est-à-dire que géographiquement, évidemment, les pays du sud de l'Europe sont beaucoup plus exposés que la Finlande ou le Danemark. Et c'est ce qui fait le jeu des populistes, dans la mesure où il n'y a pas de solution européenne pour l'instant. Les Européens, globalement, ne veulent pas de migrants. Et globalement, ils sont incapables de... Effectivement, ils se refilent la patate chaude. Donc, malheureusement, pour l'instant, je ne vois pas de solution européenne commune.
Vous qui êtes historien, est-ce que vous avez appris des choses que vous ignoriez, même sur ces dictateurs dont on a l'impression de presque tout connaître, Hitler par exemple ?
Bien sûr que j'ai appris plein de choses dans ce livre. Je connaissais évidemment pas les histoires de tous les dictateurs. Sur Hitler, peut-être un petit peu moins, même si le chapitre est excellent, dans la mesure où ces dernières années, ces 10-15 dernières années, j'ai quand même beaucoup beaucoup travaillé sur l'Allemagne, même si c'était surtout l'Allemagne d'après-guerre, mais il a fallu quand même que je lise énormément sur l'Allemagne hitlérienne. Mais sur plein d'autres, énormément.
Par exemple, il y a un exemple qui vous revient en tête là ?
Tito, par exemple. Tito, on a une image plutôt sympathique de Tito parce que il s'est séparé très rapidement de Staline, parce qu'on pouvait voyager en Yougoslavie dans les années 60-70, parce que c'était un pays balkanique et du sud, etc., etc. Et donc on avait une image plutôt bonhomme de Tito. En fait, le chapitre écrit par Jean-Christophe Buisson montre bien que Tito était un dirigeant, un dictateur très autoritaire. Presque, il aurait pu être totalitaire s'il avait un pays plus grand, et c'était très intéressant. Son enfance aussi, à l'époque de l'Empire austro-hongrois, son rôle pendant la Première Guerre mondiale, toute l'Europe centrale, balkanique pendant l'entre-deux-guerres, le communisme, la clandestinité, par exemple. Mais pareil pour Mobutu, moi je connaissais pas du tout bien la vie de Mobutu auparavant, celle de Saddam Hussein, etc., etc. Et 22 profils, il y a de quoi faire.
Alors dans le portrait de Castro, Elisabeth Burgos et Laurence Debray épinglent la mansuétude dont Fidel, entre guillemets, a bénéficié auprès des Occidentaux. Elles écrivent « Rarement un dictateur aura réussi un tel écart entre son image et la réalité d'un pouvoir cynique et impitoyable ». D'après vous, est-ce que c'est l'auréole de l'icône de la révolution Che Guevara qui a profité à Castro ?
Pas seulement, bien sûr que Guevara, qui a eu la bonne idée pour Castro en tout cas de mourir très jeune et d'une rare avec une rare beauté, on va dire, a donné à lustrer un petit peu ce régime castriste, mais globalement après-guerre, en tout cas, les dictatures de gauche, d'extrême gauche, ont bien meilleure image que celles d'extrême droite pendant l'entre-deux-guerres. Donc Castro, oui, a formidablement joué. Ce qui est intéressant chez tous ces dictateurs, on va dire, d'obédience communiste socialiste, c'est leur formidable appareil de propagande. C'est-à-dire, lorsque Staline, imaginons quand même un congrès, les congrès pour la paix, organisés par Staline à la fin des années 40 et au début des années 50, et vous avez des centaines, des milliers d'intellectuels qui s'engagent, qui croient vraiment Staline est un homme de paix. Ce qui est proprement hallucinant lorsqu'on sait ou lorsqu'on saura plus tard qu'il a massacré des dizaines de millions de gens rien que chez lui. Donc Castro, quelque part, a joué là-dessus. Par ailleurs, il y avait ce côté, effectivement, l'homme qui venait de la Sierra, qui avait combattu un autre dictateur, pour le coup, corrompu, qui tient tête aux États-Unis, etc. Donc il y a l'image de Castro, effectivement, était mille fois meilleure de ce qu'a été la réalité du régime castriste.
Est-ce que certains dictateurs ont pu se vanter d'un bon bilan économique ?
Alors au départ, l'une des raisons pour laquelle les dictateurs arrivent au pouvoir ou s'emparent du pouvoir, c'est toujours pour redresser l'économie. Donc il peut y avoir, généralement, ils mettent la main sur un appareil de production qui est assez conséquent, ils peuvent nationaliser, et on a tous en tête l'histoire des autoroutes d'Hitler, de Mussolini, des grands travaux, Bagdad qui a été transformé par Saddam Hussein, mais assez rapidement, quand même, ces dictateurs qui n'ont aucune limite vont embarquer leur population et donc leur économie dans des entreprises absolument farfelues, des guerres tout à fait aberrantes qui vont totalement détruire leur pays. Il y a deux exceptions à ça. Il y a Franco. Franco en Espagne, qui est un personnage assez intéressant, qui lui va réformer sa dictature et notamment l'économie. À partir des années 60, c'est lui qui va moderniser très sérieusement l'économie espagnole. Et on peut dire que l'Espagne de la transition après 75, après la mort de Franco, repose sur les changements économiques de Franco. Et puis il y a Pinochet au Chili, qui lui est un tyran absolu avec ses opposants de gauche, mais qui travaille avec des économistes libéraux et qui va lancer, on va dire, le Chili dans l'économie mondialisée du 21e siècle.
Facebook a dévoilé mardi une nouvelle fonctionnalité qui, d'après le groupe de Mark Zuckerberg, permettra à ses membres de mieux contrôler leurs données personnelles sur Internet. Ce nouvel outil de Facebook sera d'abord testé en Espagne, en Irlande et en Corée du Sud. Une façon pour le géant des réseaux sociaux de reprendre la main après un tout nouveau scandale, Claire Fage.
Redonner le contrôle de leurs données aux utilisateurs, c'est le nouveau slogan de Facebook. Le champion américain des réseaux sociaux se devait de réagir après avoir reconnu il y a une semaine ce qu'il avait longtemps nié, à savoir qu'il avait fait transcrire des extraits sonores de conversations de ses usagers avec, selon Facebook, leur accord mais sans en dévoiler l'usage. À nouveau pris en défaut, moins d'un mois après avoir été condamné à une amende de 5 milliards de dollars par l'autorité de régulation américaine pour mauvaise protection des données privées. Le groupe de Mark Zuckerberg tente de reprendre la main en modifiant l'architecture de son réseau. Il propose désormais aux internautes le choix d'associer ou non les informations sur les sites consultés à leur compte Facebook. En cas de refus, le groupe américain ne renoncera pas à ces précieuses données, pourtant récupérées hors du réseau social et qui permettaient à Facebook de vendre très cher des publicités ciblées aux annonceurs. Ces données seront rendues anonymes, mais elles permettront tout de même, reconnaît le géant des réseaux sociaux, de faire des statistiques utiles à la publicité.
Olivier Guesse, dans la préface du livre que vous avez dirigé, Le siècle des dictateurs, vous dénoncez un autre type de dictateur apparu ces dernières années, dont le royaume, écrivez-vous, n'a ni capitale ni frontières, mais qui règne sur plus de 2 milliards d'individus. Vous dites que grâce à Facebook, WhatsApp et Instagram, l'empire des réseaux détient davantage d'informations sur ces sujets que Staline à l'époque des Grandes Purges. Ça donne le vertige ?
Oui, on essaye de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, mais absolument, je pense que les réseaux, et là on a parlé de Facebook qui est le principal, constituent une véritable menace pour nos démocraties, pour des tas de raisons. On connaît les politiques fiscales de ces grands groupes, hein, qui essayent par tous les moyens de ne pas payer l'impôt, ça constitue un gigantesque problème. Deuxièmement, il y a la volonté d'émettre une monnaie, donc totalement indépendamment de toute forme de régulation étatique ou internationale. Et puis moi, ce qui me choque énormément, c'est la question des valeurs. Mark Zuckerberg a certaines valeurs qui sont très américaines et je ne vois pas pourquoi finalement nous devrions nous soumettre aux valeurs chères à Mark Zuckerberg. Je ne vois pas pourquoi il serait interdit de poster un sein sur Facebook alors qu'on peut voir des scènes de décapitation islamiste. On a accès à toutes sortes de propagande d'extrême droite, d'extrême gauche, etc., etc. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, les pouvoirs publics vont très sérieusement devoir se pencher sur ces gigantesques groupes.
Et pourquoi est-ce que l'on accepte cette dépendance, cette intrusion perpétuelle dans nos vies ? On n'est pas assez conscient des risques ou on préfère faire l'autruche et advienne que pourra ?
Je pense un peu les deux, parce que ça paraît extrêmement bénin de poster une photo de sa grand-mère ou son fils sur une plage. On ne se rend pas compte, en fait... par quel système tout ça circule. Et il y a une forme de gigantesque paresse de la part de nous tous. Et puis, parce que c'est un système extrêmement efficace. C'est vrai, moi je vois en tant qu'auteur, les maisons d'édition nous poussent à être sur les réseaux sociaux. Tout le monde doit être sur les réseaux sociaux. Il s'agit de faire du bruit, il s'agit de... Ben justement, ça a toutes sortes de fonctions professionnelles, amicales, amoureuses. Et donc on est tous un peu coincés. Ça, c'est difficile aujourd'hui d'échapper au smartphone. C'est une vraie question, je pense.
Vous soulignez que la technologie offre aux dictateurs du 21e siècle des moyens dont leurs prédécesseurs n'auraient pas rêvé. Vous donnez l'exemple de la Chine. Est-ce qu'on peut dire que c'est le pays pionnier en matière d'exploitation des nouvelles technologies à des fins de contrôle des citoyens ?
Déjà, la Chine est le seul grand État totalitaire, seule grande dictature du XXe siècle qui a su se réformer pour entrer dans le XXIe siècle. Ça, c'est déjà une chose très importante. Et donc, ils ont cet appareil d'État extrêmement puissant, extrêmement bien organisé. Et là-dessus, se sont ajoutées les nouvelles technologies. Et donc, lorsque vous mélangez l'ensemble, vous avez la première dictature du XXIe siècle. Puisque, effectivement, Internet est bien plus efficace. Si vous avez le contrôle d'Internet, ou en tout cas, si vous pouvez avoir accès aux données justement des réseaux, eh bien, vous avez un système mille fois plus efficace en termes de surveillance que si vous postez des espions ou des mouchards dans tous les immeubles, à tous les coins de rue. Donc la Chine constitue un exemple assez frappant de ce début de siècle.
Après Twitter et Facebook, Google a annoncé hier avoir clôturé 210 chaînes sur YouTube qui étaient suspectées de désinformer les internautes sur les manifestations à Hong Kong, les manifestations pro-démocratie. Les internautes ont finalement été entendus, ça c'est une bonne nouvelle, non ?
Oui, en tout cas, c'est pas une mauvaise nouvelle. Après, ça reste à voir. Si vous regardez l'évolution politique des cinq dernières années, je pense que Trump n'aurait pas été élu sans Facebook. Je pense que le Brexit n'aurait pas eu lieu si Facebook n'existait pas. Il y a la façon dont ça fonctionne, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous regardez certaines actualités, systématiquement, on va vous proposer, on va vous mettre en contact avec des gens qui pensent exactement comme vous. C'est-à-dire, vous êtes dans des systèmes de pensée totalement clos. Et l'autre apparaît comme l'ennemi ou pire encore que l'adversaire ou l'ennemi, c'est-à-dire comme racontant n'importe quoi. C'est-à-dire que la vérité n'existe plus. Il y a un système qui tourne sur lui-même. Donc il faut vraiment surveiller ce système-là.
Le poumon de la planète est en feu. L'Amazonie est depuis des semaines dévastée par les incendies. La situation est hors de contrôle, affirment les écologistes. L'ONU s'inquiète. Les habitants de Sao Paulo ont commencé cette semaine à ressentir les effets des incendies, comme en témoigne notre correspondant au Brésil, Martin Bernard.
En début de semaine, on a assisté à des scènes étonnantes, puisque lundi après-midi, vers 15h, le ciel s'est obscurci. C'est comme si la nuit était tombée. En fait, il s'agissait de gros nuages noirs qui ont plongé la ville dans l'obscurité, des nuages chargés de particules provenant des incendies de la forêt amazonienne. Et le plus étonnant, c'est que la pluie qui est tombée d'un certain quartier, eh bien cette pluie était noire elle aussi. Et tout cela est en fait lié aux feux de forêt qui sont eux-mêmes liés à la déforestation qui grimpe en flèche depuis le début de l'année, et ce malgré les démentis du président Bolsonaro.
La maison brûle, a tweeté Emmanuel Macron, qui a proposé jeudi d'inscrire l'Amazonie au menu du G7 qui se tient à Biarritz ce week-end. Colère de Jair Bolsonaro qui ne voit dans cette initiative que du sensationnalisme et du colonialisme. Olivier Guez, quand le très climato-sceptique président brésilien accuse les ONG d'avoir allumé les feux de forêt, est-ce que ce n'est pas un coup classique des dictateurs, trouver des boucs émissaires ?
Oh si, systématiquement. Alors, ce n'est pas l'apanage des seuls dictateurs, le bouc émissaire. Mais effectivement, c'est toujours la faute des autres. En général, les dictateurs désignent deux types d'ennemis. Il y a l'ennemi de l'intérieur et il y a l'ennemi à l'extérieur. Et c'est un grand classique. Lorsque les lecteurs regarderont les portraits des uns et des autres, ils verront qu'il y a toujours une menace extérieure, un complot généralement ourdi par un ensemble de puissances, et puis ces puissances extérieures ont toujours des relais à l'intérieur. Donc c'est un grand classique, le bouc émissaire ou les boucs émissaires chez les dictateurs.
Et tous les dictateurs, ou presque, sont paranoïaques donc.
Ah oui, ah ça c'est la base. La définition, ou l'une des définitions du dictateur, ou peut-être la définition ultime, c'est que c'est le survivant paranoïaque. C'est celui qui veut survivre à tout.
Donc il suspecte tout le monde, quitte à éliminer des citoyens innocents.
Absolument, absolument. Le survivant paranoïaque élimine non seulement ses adversaires, mais également ses alliés, pour faire totalement table rase. Il veut être le dernier homme, quelque part, le leader ultime.
Il y a aussi une autre particularité des dictateurs, c'est la manipulation des chiffres pour nier l'évidence. Est-ce que, par exemple, on peut prendre, si on fait référence à aujourd'hui, la négation du réchauffement climatique par certains dirigeants ? Et je ne pense à personne.
Oui, bien sûr. Mais ça, je veux dire, la manipulation des chiffres, c'est un grand classique. Si on se réfère vraiment au XXe siècle, j'imagine que vous pensiez à Donald Trump pour ne pas le citer. C'était pas encore un véritable dictateur, Trump. Il a certaines caractéristiques, en tout cas son caractère est assez proche de certains tyrans du XXe siècle, mais en tout cas les États-Unis sont pas encore une dictature. Mais si vous regardez par exemple l'URSS, le bloc de l'Est dans les années 70-80, puisqu'on va célébrer les 30 ans de la chute du mur de Berlin, toutes les statistiques étaient fausses, tout était faux, tout était bidon. Et finalement, le système s'est effondré comme un château de cartes parce que les chiffres qui étaient communiqués ne correspondaient en rien à la réalité. Donc ça, c'est un grand classique, c'est manipuler les chiffres. Ça peut avoir des conséquences dramatiques pour les dictateurs.
Sept jours en Afrique.
Très lourde peine au Cameroun pour le leader des séparatistes anglophones. Sissiku Julius Ayuk Tabe a été condamné à la prison à perpétuité mardi par le tribunal militaire de Yaoundé, de même que 9 de ses partisans. Ils étaient jugés pour terrorisme et sécession. Les précisions de Vanda Marsadier.
Le chef de la République autoproclamée d'Ambazonie et 9 militants séparatistes anglophones sont donc condamnés à passer le restant de leur jour dans une prison camerounaise. Leur procès s'était ouvert en décembre dernier et s'est terminé hier à l'aube à l'issue d'une audience fleuve. Les avocats de la défense étudient la possibilité de faire appel, certains qualifiant la procédure de parodie de justice. Ces derniers temps, Sissoukou Julius Ayuk Tabe semblait fragilisé à la tête du mouvement séparatiste. Il faut dire qu'il avait répondu favorablement à une offre de dialogue inattendue en mai dernier du président Biya. Même si le leader séparatiste avait posé des conditions, ce signe d'ouverture était contesté par la branche radicale armée de son mouvement. Sa condamnation va-t-elle compliquer encore plus un éventuel dialogue avec Yaoundé? C'est ce que craignent Denis Nkenlemo, porte-parole du parti d'opposition SDF, et Maximilienne Ngobé, la directrice du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale, tous deux cités par l'agence France Presse. En attendant, dans les provinces anglophones du Cameroun, le conflit continue avec son lourd bilan. Selon diverses sources, près de 3 000 morts, civils et militaires, et 530 000 déplacés.
Journée historique mercredi au Soudan. Un conseil souverain composé de 5 militaires et 6 civils a été intronisé mercredi à Khartoum. C'est la première fois depuis 30 ans que le Soudan n'est donc plus dirigé par un pouvoir exclusivement militaire. Laure Broulard.
11h, lors d'une courte cérémonie au palais présidentiel à Khartoum, le général Abdel Fattah al-Bourhan prête serment, béret vert sur la tête et bâton de maréchal sous le bras. L'ancien chef du conseil militaire devient ainsi officiellement le nouveau président du conseil souverain, et ce pour une durée de 21 mois, car il devra ensuite laisser sa place à un civil pour les 18 mois restants de la transition. À la mi-journée, les 10 autres membres du conseil souverain sont intronisés à leur tour. Civils et militaires ne sont pas face à face, mais côte à côte, entremêlés, comme pour envoyer un signe de cohésion. Pendant les 39 prochains mois, ils superviseront la transition soudanaise, même si le pouvoir exécutif sera dans les mains du gouvernement et le pouvoir législatif dans celle du futur parlement. 21h enfin, comme prévu, le Premier ministre prête lui aussi serment. Abdallah Hamdok est un économiste, ancien cadre des Nations Unies. Devant les journalistes présents, il a listé les priorités de son futur gouvernement, qui devrait être formé d'ici à la fin du mois. Arrêter la guerre, construire une paix durable, faire face à la sévère crise économique et mettre en place une politique étrangère équilibrée.
Nous sommes toujours en compagnie d'Olivier Guez, qui a dirigé Le siècle des dictateurs, qui vient de paraître chez Perrin Le Point. Olivier Guez, un peu plus de 4 mois après la chute d'Omar el-Béchir, le Soudan semble sur la bonne voie. La rue a gagné, même si elle a payé un lourd tribut à la révolution. Qu'est-ce qui provoque la chute d'un dictateur ?
Ça dépend des périodes. Il y a des fois simplement il meurt dans son lit. C'est le cas de Franco, qui a été malin, on l'a déjà dit, qui a su s'adapter à la nouvelle donne. Il y en a certains qui se lancent dans des entreprises guerrières tout à fait aberrantes, folles, hein, comme Hitler, Saddam Hussein, Mussolini, et donc qui finissent extrêmement mal, pendus, jugés, et finalement tués ou suicidés. Et puis, il y en a certains qui ne servent plus à rien. Et là, c'était le cas d'un certain nombre de dictateurs à l'époque de la guerre froide, de la fin de la guerre froide, lorsque la chute du mur a eu lieu il y a 30 ans, et au début des années 90. Eh bien, certains autocrates qui étaient utiles à l'époque de la guerre froide ne l'étaient plus, et donc ils ont perdu leur parrain, et ils ont dû partir, on leur a demandé de partir. Donc,
c'est par exemple le cas de Mobutu au Zaïre.
C'est le cas de Mobutu au Zaïre, c'est le cas de Stroessner, par exemple, au Paraguay, et c'est le cas, quelque part, de tous les dictateurs du bloc de l'Est, en Europe centrale et orientale, qui ne servaient plus à rien à partir du moment où Gorbatchev a décidé de se rapprocher du bloc de l'Ouest. Donc, quelque part, l'URSS les a lâchés. C'était le cas de Honecker en Allemagne de l'Est en 1989. Et donc, ces dictateurs tombent à ce moment-là. Ils n'ont plus de soutien, ils n'ont plus de parrain.
Sept jours en France.
Fini Versailles, c'est dans un cadre plus relax, le fort de Brégançon dans le sud de la France, qu'Emmanuel Macron a reçu son homologue russe, Vladimir Poutine. Les deux hommes ont eu ce qu'on appelle en langage diplomatique des discussions franches. On peut les imaginer en écoutant la passe d'armes verbale qu'ils ont échangée ensuite devant la presse. Valérie Gasse.
Entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, il y a toujours un moment où l'entretien tourne au rapport de force. Et cette fois-ci, c'est Vladimir Poutine qui a lancé les hostilités. À une question sur les arrestations d'opposants en marge des manifestations de Moscou pour réclamer des élections libres, il a répondu en évoquant les gilets jaunes. Faisant mine d'être gêné, Vladimir Poutine a rappelé les manifestations qui ont eu lieu en France et a même énuméré des chiffres. 11 morts, 2500 blessés, des chiffres que la traductrice n'a pas donné exactement. Puis il a terminé en souhaitant ne pas connaître de tels événements en Russie. Emmanuel Macron n'a pas laissé passer le tacle.
En France, je le dis aussi ici clairement, c'est pour ça que comparaison ne vaut pas raison. Ceux qui ont manifesté se sont présentés librement aux élections. Simplement, on ne peut pas accepter qu'ils cassent et qu'ils troublent l'ordre public, parce que ça empêche les autres d'avoir leur propre liberté. C'est la différence entre la liberté qui suppose l'ordre public, protégé constitutionnellement, protégé par la Cour européenne des droits de l'homme, et le non-respect de liberté lorsque des gens ont cette liberté réduite. Voilà.
Décidé à avoir le dernier mot, Vladimir Poutine a repris la parole après Emmanuel Macron pour enfoncer le clou. Derrière les sourires, les amabilités et même la volonté affichée de travailler ensemble sur les grandes crises, Emmanuel Macron et Vladimir Poutine sont toujours prêts au bras de fer.
Olivier Guèze, est-ce que Vladimir Poutine peut être qualifié de dictateur ?
En tout cas, il ne peut pas être qualifié de démocrate, ça c'est certain. Oui, il a certaines caractéristiques du dictateur classique, on va dire. Maintenant, il a l'aval de la population. Alors même s'il truque un peu toujours les élections, en tout cas il se débarrasse des opposants en règle générale avant les élections, en tout cas il les empêche de se présenter, il faut toujours voir le contexte. C'est-à-dire que les Russes ont incroyablement souffert au XXe siècle. La chute du tsarisme, la guerre civile, le communisme, le stalinisme, les échecs économiques et surtout le fait que l'URSS était quand même une grande prison, donne le sentiment à une majorité de la population, encore aujourd'hui la majorité, de jouir de nouvelles libertés. Et Poutine s'est très très bien joué là-dessus. Il y a une illusion de la liberté dans la Russie contemporaine. Mais effectivement, il y a cette volonté d'avoir le monopole du pouvoir, de se débarrasser des opposants. Et puis là aussi, il y a le rapport à Internet. Alors, il n'a pas les mêmes accès, Poutine, que les Chinois à l'Internet. Mais l'Internet permet de distraire les gens. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Lorsque vous baladez dans le métro à Moscou, c'est un métro extrêmement souterrain, qui est très très profond. En France, on a du mal à avoir le métro, avoir l'Internet dans le métro. Là, vous êtes à 100, 200 mètres sous terre. Tout le monde est sur son smartphone. Quelque part, les gens ne pensent pas politique. On les distrait systématiquement et Internet est un outil extrêmement précieux à ce niveau-là.
Lui aussi est un populiste. Il affirme qu'un Brexit sans accord ne lui fait pas peur et veut sortir son pays de l'Union européenne d'ici au 31 octobre. Mais Boris Johnson a semblé un peu moins intransigeant lors de la mini-tournée européenne qu'il a conduit mercredi à Berlin et jeudi à Paris. Bien sûr que je veux un accord, a-t-il déclaré dans la cour de l'Élysée. Anissa El-Jabri.
Ton plus conciliant sur la forme, on m'a toujours dépeint comme le plus dur de la bande, a dit Emmanuel Macron, mais le président le rappelle. Sa ligne, c'est de dire qu'il faut respecter le choix du peuple britannique, une ligne pas toujours reçue 5 sur 5 par les Européens. Le chef de l'État avait poussé, c'était en avril dernier, pour un court report du Brexit avant de devoir se ranger à l'avis de la majorité et un délai plus long, cette date du 31 octobre. Maintenant, sur le fond, on a assisté à un exercice parfois inédit. Boris Johnson reprenant de la cour de l'Élysée le président français sur le contenu de son rendez-vous avec Angela Merkel, la chancelière allemande qui a dû préciser en fin de journée son propos de la veille. Non, elle n'a pas donné 30 jours à la Grande-Bretagne pour trouver une solution au problème de la frontière en Irlande, mais bien souhaité souligner le peu de temps qu'il restait. Pas de solution en vue donc, et un Boris Johnson qui prévient, pas question pour la Grande-Bretagne de rétablir des contrôles à la frontière entre les deux Irlandes. Autrement dit, ce sera l'Union européenne d'en prendre la responsabilité.
Il nous a quitté le week-end dernier. Le héros d'Easy Rider, Peter Fonda, est mort à l'âge de 79 ans. New York, Lubna Anaki.
Pour des générations entières de cinéphiles, il restera à jamais Wyatt. Avec ses lunettes de soleil, son blouson de cuir avec un drapeau américain cousu sur le dos, un Captain America version années 60. Easy Rider, sans doute le film et le rôle le plus emblématique de la carrière de Peter Fonda. Un film qu'il a lui-même coécrit avec Dennis Hopper et Peter Sutherland. Tourné en seulement 7 semaines avec un petit budget, le film sorti en 1969 célèbre l'esprit libre, rebelle et anti-système de la génération Woodstock. Fils du célèbre acteur Henry Fonda et petit frère de Jane Fonda, Peter se démarque très vite par des rôles anticonformistes. Il devient l'un des visages de ce nouvel Hollywood qui casse les codes et où tous les films n'ont pas forcément une fin heureuse. En 1998, Peter Fonda reçoit un Golden Globe et une nomination aux Oscars pour son rôle dans L'Heure de la vie de Victor Núñez. Avec plus d'une centaine de films, Peter Fonda est sans doute l'un des acteurs les plus emblématiques du cinéma américain. Son dernier film, The Last Full Measure, doit sortir en octobre prochain. Il y joue notamment aux côtés de Morgan Freeman et Laurence Fishburne. L'acteur s'est éteint hier à 79 ans des suites d'un cancer des poumons. Sa famille a souhaité rendre hommage à sa passion pour la vie en invitant ses admirateurs à lever un verre à la liberté.
Born to be Wild, c'est l'hymne d'une génération. Olivier Gaz, est-ce que vous êtes un nostalgique des années Woodstock, le festival dont on vient de fêter les 50 ans ?
Est-ce qu'on peut être nostalgique d'une période qu'on n'a pas connue ?
Bah oui.
C'est une vraie question. Oui, peut-être. Je ne sais pas si j'ai la nostalgie, mais en tout cas, cette période m'intéresse énormément. Elle m'intéresse énormément à plus d'un titre. D'abord, j'adore la musique et le bouillonnement musical de l'époque est absolument fascinant. Deuxièmement, je trouve ça incroyable que ce festival ait lieu même pas un quart de siècle après la fin de la Seconde Guerre mondiale. On a l'impression que c'est 3 siècles plus tard. Il y a une soif de liberté, une envie de vivre qui est proprement hallucinante. Et ça a 50 ans déjà. Et cet été, j'ai vu pas mal de choses. J'ai lu des choses sur Woodstock, parce qu'encore une fois, ça m'intéresse. Mais j'ai lu des choses aussi sur la mission Apollo 11. Et il y a cet extraordinaire film documentaire qui s'appelle Apollo 11, justement. Il y a le film aussi de Tarantino qui vient de sortir. Voilà, Once Upon a Time in Hollywood, qui raconte aussi cet été 69 et à la fois cette frénésie de vivre et aussi la folie de l'époque, hein, avec Charles Manson et sa bande de tueurs. Et en regardant toutes ces choses, en lisant toutes ces choses, je me suis dit, mais comment les États-Unis ont pu changer tellement à une telle vitesse en 50 ans? Comment ce pays qui est vraiment l'emblème de la liberté à la fin des années 60 est devenu presque son antithèse, ou en tout cas l'une de ses antithèses aujourd'hui? C'est quelque chose qui me frappe énormément, qui me travaille énormément, le destin américain et ses conséquences sur l'Occident, donc sur nous.
Olivier Gaz, l'émission touche à sa fin. Je reviens au siècle des dictateurs. Pour écrire ces 22 portraits, pourquoi avez-vous sollicité des auteurs au profil très différent, historiens, journalistes et même un ancien ambassadeur, Bernard Bajolet?
Parce qu'ils sont spécialistes à titre divers de ces éminents dictateurs dont nous parlons dans le livre.
Et vous leur avez demandé d'adopter un certain style, parce qu'ils sont souvent très littéraires, ces portraits. On a l'impression de lire une succession d'histoires et non pas un livre d'histoire.
Ça, c'est un travail qui a été fait avec l'éditeur, hein, notamment avec Benoît Hiver qui dirige Perrin. L'histoire, c'est de la littérature aussi. Alors peut-être que ça les a influencés. Moi, je m'inspire énormément de l'histoire. Je trouve que c'est un matériau fascinant, le rapport des hommes à l'histoire, comment certains hommes se mettent en travers de l'histoire. Et cette idée de se mettre en travers de l'histoire, c'est vraiment l'idée du dictateur. Le dictateur qui vient d'un milieu défavorisé, un homme d'un milieu défavorisé qui décide d'entraver l'histoire quelque part et de détourner son cours. Donc il y a une matière littéraire. Et effectivement, certains des portraits qui sont dressés dans le livre sont écrits d'une manière plutôt littéraire.
À vous parler de matière littéraire, vous avez reçu en 2017 le prix Renaudot pour la disparition de Joseph Mengele. Est-ce que certains des dictateurs racontés dans le livre pourraient vous inspirer un roman ?
Ah oui, c'est la réflexion que je me faisais, parce qu'encore une fois, je connaissais pas la vie, en tout cas en détail, de certains. Cette idée d'hubris, cette idée de démesure est une matière littéraire extraordinaire. Il y a eu des livres formidables hein, sur les dictateurs déjà. Il y a tous les tyrans de Shakespeare. Il y a un livre incroyable que j'ai lu récemment de Vargas Llosa qui s'appelle La fête au bouc sur Trujillo, qui était le dictateur en République dominicaine, qui aurait très bien pu figurer dans ce livre. Garcia Marquez a écrit aussi sur les dictateurs. Alors moi, mon prochain livre, ce sera pas sur un dictateur, ce sera complètement autre chose, mais c'est une source d'inspiration, ça donne des idées en tout cas, notamment les tropicaux. Je les trouve très intéressants, les dictateurs tropicaux.
Merci beaucoup Olivier Guez d'avoir été notre invité pour ce livre passionnant que vous avez dirigé et préfacé, Le siècle des dictateurs, paru chez Perrin Le Point. Je remercie nos confrères de France Bleu Alsace qui ont permis ce duplex avec vous depuis Strasbourg. Merci également à Sophie Janin qui a réalisé cette émission. Bonne semaine à tous, on se quitte avec la BO d'Easy Rider, Steppenwolf, Born to be Wild.